Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h, merci pour votre confiance à renouveler au programme de Studio Tamani. Nous sommes lundi 16 décembre 2024. Les titres de ce journal. 14 morts et deux églises détruites, c'est le bilan d'une attaque terroriste survenue ce week-end dans la région de Badiangara. Lutte contre la corruption au Mali, les organisations engagées pour la cause déplorent la persistance du phénomène malgré les efforts déployés par les autorités pour lutter contre le fléau. Faire de la culture un facteur de paix et de cohésion sociale, c'est l'objectif d'une journée culturelle organisée hier à Minaka par les femmes leaders pour la paix et la cohésion sociale. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Les détails, c'est juste après ça. Bienvenue à tous. Ce journal vous est présenté par Lala Diara Touré. Des attaques meurtrières ont visé ce week-end plusieurs localités de Bankas et Bandiagara. Près d'une quinzaine de personnes ont été tuées dans ces attaques. Des sources locales annoncent la destruction de deux églises à Idjelida, un village de la commune de Douro, cercle de Bandiagara. Des magasins de la paroisse de Ségué ont aussi été incendiés au même moment au nord du pays à Minaka. Des sources locales rapportent que l'armée malienne a mené une opération spéciale dans la zone d'Andera Boukana. Cependant, l'armée n'a pas encore communiqué sur cette opération. À cet compte, nous fait le point.
Le diocèse de Mopti s'est indigné des attaques survenues ce dimanche contre le village de Ségué, cercle de Bankas et deux églises à Idjelida, à Badiangara. À Ségué, cette attaque des hommes armés non identifiés a coûté la vie à 7 personnes. La pharmacie, des maisons, des véhicules, des motos et des boutiques ont été également incendiées selon des sources locales. Dans le village de Idjelida, en plus de deux églises incendiées, des maisons, des greniers et des champs de récolte des populations ont été aussi brûlés. Mais il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Notons qu'au même moment, deux personnes ont été tuées dans l'attaque du village de Sonfounou à Bankas. La veille, un tricycle en provenance de Tori a heurté un engin explosif improvisé, tuant 5 femmes, 2 blessés graves, dont le conducteur et un enfant. Par ailleurs, au nord, à Menaka, plusieurs terroristes affiliés à Daesh ont été neutralisés ce dimanche par les forces armées maliennes dans la zone d'Andera Boukane. Cette opération spéciale a permis l'arrestation d'Ahmad Agadita, chef local de premier plan de Daesh.
La sécurisation des régions du centre est complexe pour la simple raison que l'ennemi est infiltré dans la population. C'est du moins ce que pensent des spécialistes des questions sécuritaires. Selon eux, il faut aussi signaler le fait que certaines communautés n'ayant pas conclu de pacte avec les groupes radicaux subissent des répressions. Dr Ali Tunkara est le directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Il est joint ici par Assetou Conté.
Les éléments des forces de défense et de sécurité ont du mal à différencier l'ennemi parmi les populations, car l'ennemi étant fondu dans les populations, naturellement, l'extraire deviendrait une tâche compliquée pour l'armée malienne, d'où le sentiment pour certaines communautés d'être oubliées par l'État. Pour une paix durable dans ces localités aujourd'hui, en proie aux attaques terroristes et même aux conflits locaux, il faut des solutions contextualisées circonstanciées. Solutions contextualisées circonstanciées passent par une implication réelle des communautés à la base dans les initiatives en cours par l'État du Mali.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Je vous le disais à l'entame de cette édition, la Journée mondiale de lutte contre la corruption a été célébrée la semaine dernière. Cette célébration est intervenue alors que les politiques mises en œuvre par les autorités peinent à produire les effets escomptés. Une situation que regrettent les organisations engagées dans la lutte contre la pratique. Juliette Koulibaly, reportage.
Moussa Touré, représentant du réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption, se réjouit des conventions et politiques adoptées par les autorités dans la lutte contre le phénomène. Mais il déplore que malgré ces textes, la corruption continue de gangréner des systèmes administratifs.
De 1960 à nos jours, tous les présidents qui se sont succédés à la tête de notre État ont eu à promettre au peuple malien qu'ils vont s'en prendre au phénomène de corruption. Le résultat reste malheureusement mitigé. La volonté politique n'est pas que s'affirmer.
Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Aguibou Bouaré, qualifie la persistance de la corruption de violation des droits humains. Il préconise aux autorités de mettre davantage l'accent sur la prévention que l'intensification de la lutte contre ce fléau.
Faire en sorte que toutes les transactions ou le maximum de transactions puissent passer à travers les comptes ou les écritures. Donc, ce sont ces genres de mesures plutôt qui peuvent aider, qui peuvent contribuer à lutter contre la corruption et non l'emprisonnement à faire d'autres dépenses supplémentaires.
Cet avis est aussi partagé par de nombreuses autres associations de lutte contre la pratique. Celles-ci recommandent d'accentuer la sensibilisation des populations en leur montrant l'impact dévastateur de cette pratique.
Un mot de culture dans cette édition, faire de la culture une source de paix et de cohésion sociale. C'est l'objectif de l'association des jeunes femmes leaders pour la paix et la cohésion sociale à travers une journée culturelle organisée ce dimanche dans la ville de Menaka. L'événement a drainé des centaines de personnes au stade municipal en présence des autorités régionales. Des prestations d'artistes, défilés de mode, danse traditionnelle ont émaillé cette journée culturelle. Les temps forts de cet événement, c'est dans ce reportage de notre correspondant Mohamed Ag Issa Feitan.
Un homme sans culture est un zèbre sans rayures, a dit un proverbe africain. L'association des jeunes femmes leaders a fait revivre aux populations de Menaka des moments qui, dans un passé récent, initiaient les uns et les autres autour de l'idéal de paix. Selon Koussa Samake, responsable des artisans, l'événement est un véritable rendez-vous de l'histoire.
Nous voici aujourd'hui au rendez-vous de l'histoire culturelle et artisanale de notre jeune région, en vue de contribuer à l'instauration de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans nos communautés.
Au demeurant, c'est un rappel des vertus ayant caractérisé de façon positive la vie des communautés qui portent cet événement. Aminata Kanté, présidente de l'association des jeunes femmes leaders pour la paix et la cohésion sociale.
Cette journée est bien plus qu'un simple événement. Elle représente une célébration de nos richesses culturelles, de nos valeurs, savoir-faire, artisanaux, mais aussi de nos valeurs fondamentales que sont la paix, l'unité et la cohésion sociale.
Tagout, Hausa, Zerma, Tende et Kanzem. Bref, les principales danses ont été applaudies par un public nostalgique des temps passés qu'il était en train de vivre. Mohamed Ag Issa Feitan, Menaka, Studio Tamani.
Allons dans la cité des Askia. À présent, des 131 ménages sinistrés ont bénéficié de dons d'un programme dénommé Assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence aux ménages dans la région de Gao. Chaque ménage a reçu des vivres et non-vivres d'une valeur de 45 000 francs CFA. Ce geste du PAM, Programme alimentaire mondial, en partenariat avec World Vision, s'est tenu à la coopération du quartier Sosokoiria et s'étend sur une période d'un mois. Elle concerne uniquement les sinistrés du quartier de Sosokoiria. Toujours à l'intérieur du pays, plus de 50 enseignants des médersas et des écoles chrétiennes ont été formés ce week-end à Yorosso sur le guide des prêches et sermons religieux. L'objectif pour les organisateurs est de renforcer les capacités des enseignants en lien avec la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali, afin qu'ils les transmettent aux élèves des médersas et des écoles chrétiennes. Cette session a été organisée par l'ONG Think Peace en partenariat avec le Royaume des Pays-Bas et une femme.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Place à présent aux rubriques. Aujourd'hui, nous allons vous parler des faux profils qui prennent de l'ampleur de jour en jour sur les réseaux sociaux. La rubrique Vérifions, c'est avec Fatmata Kodjo.
Un faux profil est un compte sur les réseaux sociaux pour manipuler les internautes. Ce phénomène est un puissant outil de désinformation. Rares sont les plateformes qui échappent à ces malversations, notamment Facebook, X, anciennement appelé Twitter ou encore Instagram. Les auteurs de ces comptes trompeurs prétendent représenter officiellement des personnalités publiques, une marque ou encore une organisation. Ainsi, ils dissimulent leurs intentions en utilisant des faux noms, de fausses photos et autres identités. identifiant pour induire les gens en erreur. Pourtant, des plateformes peuvent supprimer ces comptes lorsqu'ils sont signalés. Pour connaître l'authenticité d'un profil sur Facebook, X, anciennement appelé Twitter, ou sur Instagram, il faut bien vérifier la photo utilisée sur le profil, les informations qui y sont mentionnées, le nombre d'abonnés ou de likes. Cela vous permet d'avoir un aperçu réel sur la personne et de vous protéger contre les faux profils. La vigilance et la prudence s'imposent donc face à ces faux profils qui inondent la toile.
Voilà qui est bien noté, Fatoumata Kodjo. Dans la chronique Zoom sur, nous allons parler des personnes indécises, celles qui, après avoir effectué des achats, les ramènent toujours pour une raison ou une autre. Et c'est avec Mariam Koulibaly.
L'indécise, c'est bien sûr ma cousine Zeynab, toujours en train de douter, jamais sûre d'elle. Chaque fois que Zeynab fait des achats, c'est le même scénario. Elle ramène soit pour changer de couleur, de modèle, ou tout simplement annuler l'achat parce qu'elle a changé d'avis. Souvent, les vendeurs qui la connaissent refusent de lui vendre certaines choses, prétextant qu'ils n'ont pas la marchandise. Un beau jour, une envie de crêpes l'a amenée dans un supermarché. Après achat, elle changea d'avis. Elle revient donc à la boutique, s'adresser en ces termes à la caissière. « Madame, je ramène ces marchandises, car je n'en ai plus besoin. » La caissière lui répond, « Madame, il fallait bien vérifier la marchandise avant de franchir les portes du magasin. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Nous ne pouvons malheureusement pas reprendre ces articles. » Voilà Zeynab toute furieuse. Elle commence alors à crier, « J'ai acheté avec mon argent, et si je n'en veux plus, restituez-le-moi. C'est malhonnête ce que vous faites ici. Je dirai à tous mes parents de ne plus acheter chez vous. » À sa grande surprise, deux vigiles l'ont prise par les bras et l'ont fait sortir du magasin. Cher auditeur, lorsque nous voulons faire des achats, tâchons de respecter les règles préétablies en la matière pour éviter de se retrouver dans de beaux draps comme ma cousine Zeynab.
Ça c'est sûr, Mariam Koulibaly. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Nous recevons à présent Imelana Kilumaiga pour l'introduction du débat. Imelana, bonsoir. De quoi parlez-vous et avec qui?
Bonsoir Lala Diahara Touré, ce soir nous allons évoquer l'AS et CEDEAO, un divorce toujours pas acté. Et nous serons avec professeur Mamadou Dia, enseignant-chercheur à l'Université de Pédagogie Universitaire, docteur Abdoulaye Intigui Konari, économiste à l'Université de Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, et Cheikh Omar Soumano, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance.
Merci Mirana, un débat suivra juste après ce journal et c'est ainsi d'ailleurs que se referme ce journal. Il a été présenté par Lala Diahara Touré avec la complicité technique de Adjaratou Traoré. Merci de nous avoir suivis, vous pouvez les réécouter gratuitement et les magazines qui vont suivre en appelant les services Kounafouni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Très bonne soirée à tous. Le Mali va exploiter pour la première fois un gisement de lithium. Le site situé à 65 km de Bougouni est désormais opérationnel depuis ce dimanche 15 décembre 2024. Selon les autorités, ce projet représente un investissement de plus de 198 milliards de francs CFA. Son exploitation va permettre le recrutement de plus de 1198 employés nationaux, soit 86% des employés. Cette mine qui va durer 21 ans offrira d'énormes opportunités au peuple malien. Selon les autorités, le général d'armée Assimi Goïta a lancé les travaux en présence des membres du gouvernement et les autorités locales de Bougouni. Aïssata Diarra y était aussi pour Studio Tamani.
Longtemps considéré comme le plus grand gisement de lithium non exploité au monde, la mine de Goulamina est désormais opérationnelle. Ce projet ambitieux de lithium est porté par les autorités maliennes et exécuté par la société chinoise Ganfeng. Le lithium est un élément clé des batteries du monde moderne et indispensable à la production de véhicules électriques. Son exploitation au Mali sera une alternative au chômage avec la création de milliers d'emplois directs et indirects. Wang Xiaoshen, président directeur général de Ganfeng.
Notre objectif principal est de parvenir à un bénéfice mutuel et gagnant-gagnant avec nos communautés hôtes. Avec près de 300 millions de dollars d'investissement, il y a plus de 2000 collègues qui ont rejoint nos travaux et nous continuerons à fournir plus de 1000 emplois directs et indirects.
La mise en marche de cette mine est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier de notre pays, a déclaré le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Il affirme que ce projet aura des retombées tombée très positive pour l'économie malienne.
Un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 71 milliards de francs CFA, dont 30% reviendront à l'état du Mali et 5% au secteur privé. Un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire. En plus de cela, il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA.
L'opérationnalisation de la mine de Goulamina répond aux attentes des populations locales de Bougouni qui aspirent à des solutions de lutte contre le chômage. Pour Salifou Bagayogo, maire de Danou, cette mine va apporter de nombreux avantages aux habitants de sa localité en termes d'employabilité.
Sur le plan scolaire, clôture de l'école de Nkemane, la donation annuelle en kit scolaire et la construction en cours de 3 salles de classe à l'école fondamentale de Trois-Coureaux. Le plan sanitaire donne des médicaments, la donation de 5000 moustiquaires imprégnés, la formation d'une soixantaine de femmes en saponification, la formation de 33 jeunes.
Les habitants de Goulamina, Mafele, Faraguara et autres présents à cette cérémonie n'ont pas caché leur joie. Plusieurs d'entre eux souhaitent que cette mine soit une alternative à l'immigration, à l'exode rural et au chômage des jeunes.
Une mine a des avantages. Deux de mes grands frères y sont déjà employés et ils soutiennent nos parents.
C'est une solution au chômage et à l'immigration.
Nous profitons peu à peu des avantages, mais nous voulons surtout que l'usine recrute nos enfants.
Cette mine représente une note d'espoir et un nouvel envol pour le secteur minier du Mali, explique le professeur Amadou Keïta, ministre des Mines.
La volonté politique a posé les bases d'une coopération franche avec les sociétés minières en exploitation au Mali. Avec les réformes engagées, le gouvernement œuvre à intégrer totalement dans l'architecture de notre économie pour que les revenus du secteur profitent directement aux communautés et plus largement à l'ensemble des populations du Mali.
Mais pour l'heure, ces résultats attendus tardent à être concrétisés. Selon certains jeunes, cette mine a occupé la majeure partie des terres cultivables de Goulamina et Faraguara, provoquant ainsi l'inactivité de plusieurs jeunes, au dire de Fatoma Camara, vice-président du conseil communal des jeunes de Mafele.
Dans ces villages, la majeure partie de nos terres sont occupées par l'usine d'exploitation. Le recrutement des jeunes au sein de la mine s'est fait lentement. En plus, aucun marché n'a été attribué aux jeunes, malgré nos doléances.
Les populations locales invitent également les autorités et les responsables de la société chinoise à prendre des précautions pour minimiser les effets néfastes des produits chimiques utilisés dans l'exploitation d'Île du Tchoum.